Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, l'émission qui répond aux questions essentielles par le 7e art. Aujourd'hui, nous nous demandons si un film britannique peut sauver le monde. Car pour un film américain, on connaît déjà la réponse.
Placez vos coudes sur les marques.
Et voilà enfin face à face.
Non, c'est pas un truc. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme ce tracteur, une machine.
Bon là, la réponse, c'est clairement non. Hein. On peut attaquer. L'existence d'un film, ça a quelque chose de bizarre. Sa durée de vie, par exemple. Au-delà d'une heure et demie, de deux heures, plus parfois, la vie d'un film est soumise aux aléas d'une rencontre avec un contexte de production, des spectateurs, sur une ou plusieurs générations. Orange Mécanique a 50 ans, par exemple, et encore un bel avenir devant lui. Nous en avons parlé. Pour les autres, en fonction de tonnes de critères aussi disparates les uns que les autres, ils n'arrivent pas à 50 ans. On les oublie. La pellicule a brûlé, les costumes ont vieilli, les acteurs ont un mulet affiché fièrement. Tout peut condamner un film à l'oubli éternel. Ce soir donc, dans notre cycle du mois de mars consacré aux outsiders de l'empire cinématographique britannique, nous avons réservé un numéro de notre émission à rehausser le temps d'une émission, la mémoire de films d'outre-manche que nous voulons relever, évoquer en votre compagnie et celle de toute l'équipe. À commencer par celle qui défend un film dont la bande-son a été adaptée en générique d'émission, et ce n'est pas Motus. L'émission, hein, pas le film. C'est Marianne.
Bonsoir.
Bonsoir Marianne.
Bonsoir.
Alors c'est bien, t'es prête? T'es à défendre ton film?
Bah écoute, oui.
D'accord, très bien. Je continue avec celui qui défend un film mystique, mi-figue, mi-raisin et remystique derrière. C'est Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Qui est dans le studio avec nous également ce soir au téléphone. Celui qui place des films de genre dans absolument toutes nos filmographies, c'est Nicolas. Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Et votre serviteur, moi je vous parlerai d'un film noir qui a inspiré une palme d'or et un de nos meilleurs moments du best-of des saisons passées avec une dédicace à notre ami Julien Sabozel qui nous avait accueillis ce jour-là.
Par exemple dans Éléphant.
Oui.
Je sais pas si tu te souviens. En vrai,
oui, bien sûr, les plans très contemplatifs.
Voilà, sur la tuerie de Columbine. Donc on voit l'histoire de ces gamins. Et
voilà, on passe par le travelling oui. Avant, qui sont également très immersifs. Voilà. C'est plus le point de vue subjectif, mais ça, en tout cas, ça y ressemble.
Dans la démarche, c'est ça. Au moment de la tuerie, le but c'est de nous faire d'être pas en empathie, mais de nous mettre à la place des tueurs.
Est-ce que c'est
très très fort ça.
Alors vous qui regardez ça, parce que moi je regarde pas les films et j'ai plus trop le temps, mais et c'est dommage parce que je kifferais franchement parce qu'il y a tellement de trucs.
Mais nous aussi on kiffe.
Mais est-ce que toi du coup quand tu regardes ce film là, est-ce que ça te change tes sensations dans ton petit cœur quand t'es dans dans la peau de l'éléphant ou de le voir en extérieur?
Mais si, mais oui. Alors ça te dérange
j'ai l'image terrible parce que dans la peau de l'éléphant, sachant que ça se passe dans un lycée.
Ça se passe dans un lycée, c'est pour ça que c'est drôle quoi.
J'imaginais l'éléphant dans le lycée qui est en train de buter tout le monde.
mais je sais pas, moi je connais pas le film. Alors, ça parle pas d'éléphant?
Non.
Oh merde.
Alors non, c'est vrai que le titre est piégeux.
Vous dites un éléphant aussi les gars. Bah
oh, c'est ça, le titre du film.
Gérant de Virtual Home, c'est un inculte les gars.
Merci Julien Saint-Bozel pour ce moment mythique. C'était il y a deux ans, c'était une émission en extérieur. On aimerait bien y retourner avec grand plaisir. Et ce soir, je parlerai d'Elephant, le premier, pas celui de Gus Van Sant. Allez, c'est parti, à tout de suite.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma, va.
Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM.
À J1 sur 87.9.
À Montargis sur 90.3.
Vous nous écoutez à Pithiviers sur 95.1. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe.
Vous comptez expliquer tout ça?
Non, on dit rien.
Vous êtes sur RCF Loire, vous écoutez Graffiti Cinéma. Ce soir, on parle de films britanniques qu'on voulait remettre en avant. On commence par un petit rayon de soleil.
Notre soleil va mourir. Le genre humain est menacé de disparition. Il y a 16 mois, moi, Robert Capa, et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre, gelée dans un hiver solaire. Notre mission, réenflammer le soleil avant qu'il soit trop tard.
Il faut qu'on envoie une charge explosive.
Une mission relativement classique, hein, Nicolas, pour ce premier film que tu vas nous défendre dans notre classement complètement empirique, puisqu'évidemment on fait des classements et on le précise à nos auditeurs simplement pour plaisanter un petit peu, échanger entre nous avec grand plaisir. Mais par contre, la victoire sera totalement acharnée.
Pour moi, oui, bien sûr. Voilà. L'important, c'est ça, quoi.
Et évidemment, le premier film de Nicolas, tout de suite, tu m'as dit, oh, bon, ça va être Sunshine, je veux absolument parler, sachant que c'est le film de genre de notre sélection de cette semaine. Un film de Danny Boyle dont tu veux nous parler. Alors on va évidemment le présenter rapidement, vous l'avez entendu succinctement dans ce début de résumé. En gros, le soleil s'est éteint, bon, c'est une très 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 mauvaise journée pour la plupart des gens sur la planète. Je pense que Nico pourra confirmer. Hein. Ouais, voilà, c'est pas de bol. C'est exactement à ça que je pensais. Et pour le rallumer, eh bien, la mission est simple. On va lui envoyer une charge nucléaire dans la tronche. Pardon, je rigole parce que parce que c'est pas facile. Voilà.
Non, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile à gérer. Ouais,
c'est dur. Et ceci dit, sur ce pitch, alors évidemment, on sourit, mais sur ce pitch ultra simpliste, Danny Boyle a fait un très grand film de genre. Et là, on plaisante pas du tout. Et je vais te laisser la parole pour défendre ce film, Nicolas.
Oui, donc le film date de 2007. Danny Boyle avait toujours voulu faire un film de science-fiction à la Alien, il le dit très clairement, et en plus, bon, bah, c'est clairement sous influence Alien. Hein. Le film raconte, donc en 2057, tu l'as dit, le soleil s'éteint petit à petit, et la mission Icarus 2, important,
oui,
est envoyée après une première mission Icarus 1, qui n'a pas donné de nouvelles et qui est perdue dans les vastes contrées spatiales. Et donc, ce vaisseau Icarus 2 a pour mission de rallumer le soleil, avec une grosse charge nucléaire. Alors, si on s'arrête là, on a un gros blockbuster américain à la Michael Bay.
Exactement.
Le génie de Danny Boyle, c'est d'en faire un film extrêmement intimiste. Moi, je trouve que c'est vraiment un des derniers chefs-d'œuvre de la science-fiction moderne. Clairement, je le mets vraiment sur ce podium-là. Donc, extrêmement intimiste, extrêmement anglais aussi, puisque je trouve que, à la différence d'un gros blockbuster américain, on a un film qui est plutôt en fait optimiste sur l'être humain, puisque donc le principe c'est que cette mission, alors on va spoiler un petit peu mais c'est pas très grave,
oui,
va se sacrifier en fait hein, pour l'humanité hein, très clairement.
Ah bah, ils savent que oui, que c'est compliqué de revenir de toute façon dès le départ.
Ils savent que d'entrée de jeu c'est très compliqué de revenir et donc ils vont se sacrifier et ils le font quand même pour justement de belles raisons. Le personnage principal et c'est là où je trouve que c'est vraiment un film anglais, un film quelque part un peu social puisque il revient un peu à ce qu'est l'être humain. Il le fait tout simplement. Enfin moi je l'ai toujours traduit comme ça pour ses parents. Tout au long du film le personnage principal c'est un scientifique qui est interprété par Kylian. Alors, je ne sais pas si on dit Kylian ou Cillian.
Alors, oui, ça, c'est compliqué. Il y a deux écoles qui se battent avec acharnement. Moi, je dirais Cillian, mais voilà.
Voilà, bah, je suis plutôt de l'école Kylian.
Mais je dirais l'épouvantail. Comme ça, tu ne prends pas de risque.
C'est ça qui joue l'épouvantail dans l'univers de Nolan.
Dans le Batman. Ouais. Et voilà, ce personnage est hanté par le souvenir et par le fait que s'il ne rallume pas le soleil, bah, tout simplement, ses parents, donc les êtres qui lui sont proches, puisqu'il n'a pas de famille, il n'a pas de demoiselle blonde qui l'attend au foyer avec des enfants dans un blockbuster américain, il va devoir sauver ses parents quelque part et pour cela il doit rallumer le soleil et se sacrifier.
Alors il y a une sœur également, mais c'est vrai que ça échappe au poncif hollywoodien habituel.
Oui, ouais. Tout à fait, il a des messages comme ça de sa sœur et de son neveu aussi qui lui arrivent avec un décalage par vidéo. Et donc il est intéressant, je trouve, parce que justement, il évite tous les poncifs qu'on a connus du cinéma américain. Et il est un peu à l'opposé d'Alien, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est pas, je ne les mets pas en opposition, puisqu'il y a un jeu hyper intéressant sur la lumière, puisque plus ils vont se rapprocher du soleil, plus ils vont devenir aveugles, plus ils vont être dans la lumière, et plus on n'y voit rien, en fait. Ouais. Et je me rapproche, c'est marrant, il est en opposition, et en même temps, je le rapproche d'Alien, puisque va y avoir un pépin, bien sûr, il va se passer quelque chose, va y avoir un grand méchant, qu'on ne voit jamais, comme dans Alien,
oui.
Et à la différence d'Alien, il n'est pas dans le noir, il est vraiment dans la lumière, mais absolue, il est dans la lumière du soleil total, et c'est là où j'ai trouvé le film extrêmement fabuleux, poétique, et vraiment intéressant, parce que, justement, tout ce jeu de contraste, je le mets en opposition, et en même temps, en miroir inversé d'Alien. Et je trouvais ça fort en 2007 de pouvoir refaire un film comme ça alors qu'on avait déjà usé un peu tout ce thème de sauver le monde. Et il en fait quelque chose d'intéressant et de pas du tout caricatural. Après, bon voilà, je voulais aussi parler de la musique.
Bien sûr.
Qui est extrêmement incroyable, la musique de John Murphy. On en parlait un petit peu en off il y a quelques jours au mari. C'est le groupe Underground aussi qui a aidé à la composition du... tu pensais à Air, mais c'est le groupe Underground. Voilà.
C'est vrai que c'est une bande son très planante, très iconique hein, de ces années.
Exactement, avec un thème qu'on a revu dans beaucoup de films et dans beaucoup de publicités, qui est Adagio. Alors je sais pas si tu auras la possibilité d'en passer un petit morceau, mais voilà, un thème extrêmement repris dans le cinéma actuel. Voilà, une musique l'enseignement poétique qui accompagne parfaitement le film, une lumière extraordinaire et puis un jeu d'acteurs, voilà, tous les acteurs. Moi, je trouve que Rose Byrne dans ce film est exceptionnelle. Elle explose, c'est un de ses grands rôles. Et ils ont tous, voilà, des raisons de se sacrifier pour finir là-dessus sur ce film. Ils ont tous des raisons de se sacrifier une histoire de don de soi, hein, quelque part. Il y a quelque chose même de christique ou de religieux, hein, dans cette mission. Et ils ont tous des raisons personnelles. Certains, ça va être l'écologie, le rapport à la mort, le rapport à la famille. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un film aussi de genre, mais aussi social et aussi anglais. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui, parce qu'au travers justement du thème de la science-fiction ou de la série B, il arrive à nous faire une proposition qui est, je trouve, forte sur le plan humain.
Il te reste une minute de plaidoirie, hein, avant qu'on te relaisse sur ce film-là de 2007, sur Sunshine, si jamais il y avait un élément que tu avais occulté ou que tu voulais renforcer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on peut citer donc 2007, Danny Boyle, Sunshine, qui était un film à l'époque personne n'attendait, parce que Danny Boyle n'était pas du tout connu sur ces territoires-là cinématographiques, et il est devenu une sorte de classique, finalement.
Ah oui, c'est devenu un classique. Et si je voulais rajouter quelque chose, c'est que pour moi, Danny Boyle, il a toujours des super propositions, mais il a du mal à finir ses films.
Ouais.
Je trouve qu'aussi bien La Plage que... Alors attention, me tapez pas dessus, mais voilà, toutes ces propositions, souvent, à la fin, voilà, ça traîne en longueur, il a du mal à... Il y a un problème d'écriture sur ses personnages sur la fin, et je trouve que celui-là, c'est son film le plus abouti. Et voilà, c'était vraiment l'aspect négatif de Danny Boyle. On le retrouve pas, je trouve, dans ce métrage.
Eh bien, c'est très important. Évidemment, on reste tous ensemble pour débriefer et parler de ce film. Alors, débriefer, c'est une forme d'anglicisme, mais on se l'autorise aujourd'hui, puisqu'on parle évidemment de films britanniques, hein, n'est-ce pas, les amis? Et je vais ouvrir le micro de Marianne et Thomas, puisque là, on va prendre 2-3 minutes, hein, comme on vous l'annonce maintenant. On prendra évidemment 5 minutes par chroniqueur pour défendre les films, et puis après, on prendra 2-3 minutes pour en parler et faire un classement tout à fait empirique et injuste. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, d'ailleurs, sur l'émission, sur notre page Facebook Graffiti Cinéma, pour parler donc cette première proposition de Nicolas dans les films des outsiders de l'Empire britannique, hein, c'est vraiment notre thématique du mois de mars. Thomas, si tu veux commencer par exemple.
Moi, là, premièrement, tout de suite, je le classe en premier.
Allez.
Hein, voilà. Ça, c'est fait. Moi, j'impose, tu vois, il faut être là pour.
Non, mais c'est. Faut prendre
trancher,
des décisions.
Voilà, dans la vie, il faut trancher, il faut être sec. Voilà, j'impose.
C'est pas facile, hein. C'est.
Ouais. Prends des risques, Thomas.
Voilà,
quand même, là.
C'est le premier.
Tu vas loin. Okay.
Ah ouais. Non, et effectivement, je me rappelais plus qu'il était aussi ancien finalement que ça. 2007, c'est la vision. On se dit c'est récent. On a tous des souvenirs de 2007, mais je pense qu'il fait partie de ces films qui relancent une partie des projets de science-fiction.
Ouais.
Il a un succès critique très important. Et on se dit mais ah oui, peut-être que nous aussi on peut faire ça, peut-être que Nolan peut sortir un film, peut-être que Denis Villeneuve peut sortir un film, peut-être on parle de Interstellar et le film de Villeneuve là.
Contact, bien sûr, oui.
Premier contact.
Premier contact, ouais. Voilà. Je me rappelle plus le titre anglais. Je voulais me la péter en sortant le titre en VO. Je me suis un petit peu écroulé.
Premier contact, qui sont des films, alors qui sont First différents, film, qui sont des films différents, mais qui prouvent que, il y a un sillon que, comme Danny Boyle, il a été parmi les premiers à relancer les films de zombies. À la limite, on se dit, mais c'est 28 jours plus tard.
Oui.
C'est lui, ça aussi. Et on se dit, ça peut venir aussi d'Angleterre. Ils font pas beaucoup de bruit, mais ils sont là, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, je pense que c'est un film important et il a tendance à être sous-côté dans le sens moins bien considéré parce que moins mis en avant dès qu'on parle d'anticipation, c'est beaucoup de films hollywoodiens, beaucoup de films avec des beaucoup de budget c'est intéressant que à la limite tu vois Nicolas, j'y pensais même plus.
Oui,
c'est Sunshine, voilà.
C'est
clair que je l'avais pas en tête.
Je pense qu'on était
que...
tous partis. Ouais. On va le voir dans notre sélection vers des films peut-être pas forcément plus pointus, mais en tout cas plus anciens.
Plus anciens.
Et Sunshine, on se dit, mais on a l'impression qu'il est sorti il y a 2 ans. Donc du coup,
oui, c'est ça.
Il était un peu sorti de nos têtes. Marianne, Sunshine, je crois savoir que tu avais beaucoup apprécié ce film.
Je ne l'ai jamais vu.
C'était un piège.
Voilà.
Est-ce que ça te donne envie pour le coup?
Alors oui, parce que j'ai l'impression que c'est une proposition différente que de ce film par rapport au cinéma hollywoodien, et moi j'aime beaucoup les films d'anticipation.
Ah bah clairement. Moi, ce que je propose à tout le monde à chaque fois, c'est de regarder la bande-annonce. Mmh. Et la bande-annonce, elle est vraiment horrible. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on va voir un gros blockbuster américain. Et bien, on regarde la bande-annonce et puis on va s'imaginer complètement l'opposé. Et bah, c'est ça.
C'est, oui.
C'est ça.
C'est vendu vraiment de façon extrêmement américaine.
Oui, oui. Et d'ailleurs, la bande-annonce, en rappel pour nos auditeurs, on veut faire une émission sur les bandes-annonces, mais on cherche les bons invités, les bons intervenants. Les bandes-annonces, c'est très rarement les équipes créatives des films qui en sont responsables. Hein, c'est les équipes de production. Et c'est vrai que dès qu'un film arrive sur le marché hollywoodien, et puis là, évidemment, Sunshine, avec un tel profil, il est dirigé vers le marché international, la bande-annonce envoie vraiment des gros sabots. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'avais baissé assez rapidement tout à l'heure, parce que je la trouvais, elle me faisait très, très rire, parce qu'elle a un décalage total avec ce que le film représente, évidemment. Eh bien, c'est cette première intervention qui lance notre émission. Évidemment, on va le classer premier, puisque Nicolas, tu as l'honneur d'ouvrir le bal de nos discussions. Voilà, c'est une forme de réussite, hein, ouais. D'achèvement dans une vie.
C'est un couronnement.
Quoi. C'est la première fois, je vous remercie.
Mais malheureusement, Marianne va passer juste après avec un film qui a une bande-son relativement illustrative, je dirais, puisque un petit musicien assez peu connu, avait fait sa bande-son qui s'appelle Michel Legrand.
Michel Legrand.
Michel the Great.
Je dirais même Michel Legrand.
Parce que voilà. Et là, alors je le dis parce que je me suis toujours dit, bon, il s'appelait Michel Legrand à Hollywood, mais il aurait pu effectivement s'appeler Michael the Great, notamment parce que la bande-son du Messager dont tu vas nous parler,
superbe,
c'est celle-ci.
Oui.
Envie de dire que Marianne a déjà gagné, hein, rien qu'en envoyant la bande son du Messager de Joseph Losey. On monte en 1971 avec cette bande son. Évidemment, vous avez reconnu le générique, a ensuite été remixé pour devenir celui de Faites entrer l'accusé, une émission absolument culte de la télévision française et francophone, même on peut aller plus loin.
Mondial.
Je vais la laisser en fond parce que c'est vrai que ce thème est absolument incroyable. Et ce film raconte le Messager, l'histoire d'un jeune garçon de milieu modeste qui est invité par son camarade de classe dans une famille de l'aristocratie britannique. Il va servir de messager à la jeune fille, et là mon écran de veille évidemment n'est pas très sympathique avec moi, à la jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles. Alors Marianne, tu nous as spontanément parlé de Joseph Losey, quand on avait parlé d'une émission de classement, on va dire, sur les vieux films britanniques. Donc Marianne, quand on avait parlé de cette émission de classement, spontanément tu nous as parlé de Joseph Losey, parce que c'est vrai que c'est un cinéaste finalement qu'on met souvent dans beaucoup de classiques du cinéma britannique, mais qui sont pas forcément très connus du grand public, hein. Faut le dire.
C'était pourtant un très très grand cinéaste, hein, parce que là c'est une collaboration supplémentaire entre lui et un très grand scénariste qui s'appelle Harold Pinter, avec qui il avait déjà fait The Servant. Alors c'est un très beau film, Le Messager, parce que comment je dirais, alors c'est un film de facture assez classique, mais pour autant un très beau film, hein, en fait, qui parle, comme dans l'œuvre souvent de très grands cinéastes, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes et c'est tout en nuances et en absence totale de manichéisme. Alors effectivement, c'est un film qui se situe durant l'été 1900, dans la société britannique, qui est quand même assez corsetée et assez rigide au niveau des classes sociales, parce qu'effectivement, le jeune Léo, qui est invité par son camarade Marcus dans une grande demeure familiale située dans le Norfolk, est d'une classe sociale légèrement inférieure. Donc ça déjà, on le ressent tout au long du film. Donc son camarade de classe tombe malade, et donc Léo, livré à lui-même, il s'ennuie un peu. Et il devient le messager de la sœur aînée de Marcus, qui s'appelle Marianne. Il devient son messager en portant des lettres à un homme qui est plus ou moins métayer, qui est incarné par Alan Bates.
Et Alan Bates, légende du cinéma britannique.
Ah oui,
légende du cinéma tout court.
Alors déjà, pour dire Déjà, la distribution est remarquable parce qu'il y a Julie Christie, Alan Bates, Margaret Leighton, enfin les très grands noms du cinéma britannique de l'époque. Et donc, il va être le messager entre les deux amants. Et bien sûr, alors bien sûr, amour interdit, parce que dans la société de l'époque, l'interdit complètement, alors qu'elle bien sûr elle est promise à un garçon de sa classe sociale, quoi. Donc en fait, c'était un film où on voit que Léo, qu'on comprend assez rapidement qu'il est amoureux de Marianne. Ça, il va être dans une situation assez complexe et difficile pour un enfant, parce qu'il va être bien sûr utilisé, manipulé par les adultes qui vont l'entourer. Voilà, donc c'était un film qui est où il y a beaucoup de thèmes, hein, parce que il y a le thème de l'enfance avec ses rites, il y a le thème aussi d'un premier amour en fait qui va complètement traumatiser le protagoniste, hein, jusqu'à la fin de sa vie, et un film aussi qui dépeint la société, qui dépeint plutôt la société aristocratique de l'époque, la rigidité des classes sociales. Enfin, c'est vraiment un très très beau film, et puis une musique superbe. Et voilà. Et donc, absence totale de manichéisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui.
C'est un mot génial à placer en soirée, ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai.
c'est vrai que les grands
cinéastes, il n'y a pas du tout, il n'y a jamais de jugement moral, il n'y a jamais de, c'est tout en nuances, en subtilité. Voilà, et le messager, c'est ça.
C'est ça.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la construction du film est très intelligente, parce qu'en fait, le début du film, il est appelé par Marianne, il est âgé, justement, pour servir à nouveau de messager au sein de la famille de Marianne. Donc, c'est une construction un peu en flashback, et c'est vraiment un très beau film.
The Go-Between, original, voilà. et non pas The Messenger.
Et le film débute par cette phrase superbe de Harold Pinter en disant « Le passé est une terre étrangère, on y agit différemment ». Donc vraiment, c'est un film qui est vraiment très très beau. Et les films de Lozé, qui sont souvent très classiques, parfois sont un peu, c'est comme les films de, sont un peu froids. Mais là, c'est un film qui génère, je trouve, de l'émotion, ce qui est à souligner. Voilà.
Eh bien, merci pour cette plaidoirie, Marianne. Et on est très content de parler de Joseph Losey. Enfin, moi, le premier. D'ailleurs, je vais couper la parole à tout le monde. Je plaisante. Parce que c'est vrai que Joseph Losey, en fait, on est en 71.
Oui.
Donc, il y a un côté family life avec Ken Loach à peu près à la même période, où ils vont essayer de concasser le modèle familial et social de la cellule familiale britannique, en essayant d'expliquer ce qui se passe à l'extérieur de la cellule familiale. Donc là, on le fait par le truchement d'un film historique, mais il y a cette démarche-là qui est très importante. Et Joseph Losey, c'est également quelqu'un qui n'hésitait pas à montrer tous les antagonismes et toutes les contradictions des sociétés au pouvoir, et notamment dans un autre film qu'on peut conseiller de Joseph Losey en prolongement du Messager, qui est The Servant, qui est absolument extraordinaire également.
Ouais. Mais il a fait quand même que des très bons films, parce que quand on voit par exemple Monsieur Klein. Monsieur Klein, alors c'est pareil, je crois, c'était un des plus beaux films de Delon. Et c'était un portrait tout en finesse de la France de l'époque. Oui,
pendant l'occupation. Ouais.
Pendant l'occupation, et puis l'histoire d'un type, en fait, qui profite un peu de la situation. Et il n'y a pas du tout de jugement moral, chez Loisey. C'est un constat un peu clinique et un peu, et finalement, le héros va se trouver confronté à son aveuglement, quoi, finalement, à la fin. Donc,
exactement. Et c'est vraiment une filmographie à ressortir, à mettre en avant. Et Le Messager également, même si évidemment c'est des films qui ont leur patine du temps, alors pour les bons côtés comme pour les mauvais, mauvais dans le sens où on peut se dire c'est pas facile d'y entrer, parce que c'est des films qui sont vraiment très placés dans leur contexte de production, que je citais en introduction. Mais par contre, une fois je dirais cette hésitation passée, on découvre des univers formidables dans ces cinéastes là Nicolas, tu as déjà vu des films de Joseph Losey par exemple? Je vais te lancer là dessus moi.
Non, justement, j'étais en train de regarder.
Est-ce que ça te donne envie?
Oui, ça me donne envie, ouais, le côté familial, social, l'introspection, j'ai l'impression qu'on traite de tous ces thèmes-là sous le prisme anglais, avec tout ce qu'on a dit sur...
Et puis c'est aussi le portrait d'une femme qui est, qui est condamnée à un destin qui ne va pas du tout lui convenir, quoi, parce que grosso modo, c'était aussi ça, sans être point levé, mais enfin, c'est ça aussi.
Non,
hein,
c'est très présent. Ouais.
Et voilà, donc, c'est un très très beau film, et... Voilà, c'est une mise en scène superbe. De toute façon, Losey,
il n'y a pas grand chose à acheter.
Non, mais c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est une expression un peu plate, mais c'est vrai que là, pour le coup, on peut tout à fait le dire. Je remets en fond sonore très léger la merveilleuse bande son de Michel Legrand sur Le Messager. C'est le thème principal, évidemment. La bande son est beaucoup plus longue, mais c'est déjà rien qu'avec ce thème musical, on pose une atmosphère absolument incroyable.
C'est vrai qu'il a tout gagné, quand on entend ça. Moi, j'ai pas vu le film, donc du coup, là, ça me captive de... Alors, je sais pas si je pourrais le voir maintenant que la musique, j'ai beaucoup vu, c'est dans un contexte
c'est pour ça que
différent.
J'ai remis le thème musical.
C'est très étrange, mais je sens que ça colle réellement à cette ambiance-là. évidemment, la partie de thème qui est utilisée réellement par
Parfaite entrée accusée, ouais.
Voilà, parfaite entrée accusée, oui, mais on sent qu'après, il y a, c'est tellement Michel Legrand, quoi. Là, on ressent sa patte. L'Osé, j'ai vu qu'un seul film, en DVD, c'est Don Giovanni.
Oui, d'accord.
Et l'adaptation de l'opéra. Mm-hmm. C'est très étonnant. Alors, je reviens pas dessus parce que c'est pas du tout le contexte, mais donc pour le coup, moi, difficilement je peux classer le film. Je dirais que je le classerai en premier parce que Marianne est là.
Oui.
Et que voilà. Si je le classe en deuxième et que je reçois une petite tape, ouais. Une petite tape virtuelle, ça fait moins mal qu'une petite tape en direct.
Oui, c'est un bon moyen de l'acheter pour défendre ce film.
Voilà.
Vous avez compris que notre classement,
totalement US
que notre classement est basé sur de la science, hein, évidemment.
Voilà, c'est ça.
Principalement. Et de la lâcheté également. Alors bon, oui, évidemment, moi j'aurais presque mis Le Messager devant, mais évidemment, on en a parlé avec Nicolas. Sunshine est un film qui, je dirais, finalement est et par l'usure du temps entre guillemets est plus facile d'accès, même si évidemment c'était très important d'en parler aujourd'hui. Par contre, pour Joseph Losey, je le mettrai en avant parce que c'est vrai que on peut avoir des réticences à se dire waouh, ces films là mais comme pour les premiers Ken Loach d'ailleurs, c'est pas facile, c'est des contextes compliqués, ça me parle de films où je vais voir des ambiances assez austères, mais c'est absolument merveilleux et il y a évidemment beaucoup de messages dans nos sociétés actuelles, à l'image de la bande son de Michel Legrand, parce qu'on en parle de cette bande son qui est mythique pour les Français évidemment, mais c'est une bande son des années 70 qui correspond finalement très peu à l'univers du film et qui fait la passerelle finalement entre la société de l'époque à qui Joseph Losey voulait parler avec un film historique. Et ce film historique-là peut encore évidemment parler évidemment à nos sociétés aujourd'hui de 2021, ça va de soi, et on le conseille donc très vivement, ce film Le Messager de Joseph Losey, j'allais dire Michel Legrand, je sais pas pourquoi. En tout cas, nous on va faire une première pause musicale dans notre émission, on va reprendre avec deux autres films juste après pour continuer notre découverte de films britanniques qu'on voulait vous mettre en avant dans le mois du cinéma britannique, des outsiders de l'empire britannique dans Graffiti Cinéma. Tout de suite, on vous propose notre pause musicale avec Alex Elbé qui vient de faire un passage télé sur IDF1 et il nous a fait un petit coucou, donc on lui fait un immense coucou. Je vous rappelle que sur sa page sa page Facebook, vous pouvez acheter son premier album, et là on vous propose directement notre pause musicale avec Heure après heure, et après j'ai quelques infos pour vous à la fin de ce morceau. À tout de suite. Fair, fair. Vous êtes sur RCF Loiret, vous écoutez Graffiti Cinéma. Cette semaine, nous classons des films disparus de l'empire cinématographique britannique.
Retrouvez toutes nos émissions sur Apple, Spotify, Spotify et Apple Podcast.
Ah, voilà. Tu veux que j'appelle un exorciste? Pourtant, c'est bien écrit sur la feuille, là, regarde.
Alors, retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début.
Oh, j'ai perdu!
Des bruits de pas, une bande-son très minimaliste, à la différence de Messager et de l'univers de Michel Legrand. Moi, je voulais vous parler d'un univers très important, c'est celui d'Alan Clark, réalisateur britannique absolument fantastique, fabuleux, qui a réalisé des films vraiment très tranchants dans le vif, pour le coup. Et je dirais des films d'écorchés vifs qui présentaient de manière très crue, elle aussi, la réalité de beaucoup de conflits et sociaux et moraux, et parfois, évidemment, au sein même du conflit avec religieux nord-irlandais, avec le film que je voulais vous évoquer, puisque Alan Clarke réalise en 1989 un court-métrage, parce que là c'est enfin un court-métrage, il dure pas 5 minutes, hein, il est un peu plus long que ça, je dirais plutôt un moyen-métrage, un film qui s'appelle Elephant. Alors, il y a un problème avec Elephant, vous l'avez entendu lors de notre introduction, c'est qu'on imagine toujours que au casting d'Elephant d'Alan Clarke, vous devez avoir Dumbo.
Voilà.
Et ça c'est un réel problème pour ce film-là, parce qu'en fait, ce film raconte un ensemble de meurtres perpétrés dans le contexte donc de conflit évidemment entre catholiques et protestants en Irlande du Nord, et le titre fait référence à une expression anglaise elephant in the room, en gros un éléphant dans le couloir, hein, que vous pourriez louper si vous tirez mal, quasiment en français. Alors pourquoi cette expression-là et pourquoi ce titre ? Parce que ce film va vous présenter en une succession de plans séquences sans aucun dialogue, dans une épure absolument totale, donc un plan séquence, un seul plan, hein, dispositif minimaliste, lumière crue naturelle, des exécutions qui s'enchaînent les unes après les autres. Pourquoi finalement Gus Van Sant décide de reprendre ce film ? Parce qu'évidemment, il faut parler de la Palme d'Or de Gus Van Sant, qui reprend exactement le titre du film d'Alan Clark pour en faire justement son film en commémoration de ces tueries dans le lycée aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai perdu le nom du lycée, je sais plus si vous
l'avez dit.
Columbine. Merci les amis. Et il reprend en gros le titre parce que c'est beaucoup plus finalement qu'un film qu'il reprend, et c'est beaucoup plus qu'un remake quand Gus Van Sant le fait. Il reprend également un état d'esprit, c'est-à-dire que il reprend dans Elephant de Gus Van Sant ces longs plans, ces longs travelling en avant, ces longs plans séquences absolument pas du tout découpés, et c'est exactement le même dispositif que le film d'Alan Clark que je veux évoquer avec vous ce matin, parce que c'est beaucoup plus qu'un film. On pourrait se dire en le voyant de ce film qui dure donc finalement 39 minutes. Que ce dispositif, finalement, n'importe qui peut le faire. Vous prenez une caméra, vous baladez, vous filmez quelqu'un en train d'en tuer un autre. Il y a une démarche vraiment très compliquée à assumer, en fait, d'un point de vue cinématographique et, je dirais, dans la logique de mise en scène, puisque c'est un film qui essaie de refuser tout dispositif cinématographique et qui a le courage de le faire. Et c'est pour ça que ce film-là, je l'évoque souvent, moi, quand j'évoque des films britanniques qui m'ont marqué et des cinéastes britanniques que je mets en avant, parce que, oui, évidemment, Ken Loach est essentiel au cinéma international, même s'il y a des détracteurs et c'est plutôt sain pour tout le monde. Mais Alan Clark, il a fait, en plus d'Elephant, des films qui, pour le coup, ont été très cotés et montrent vraiment, au départ pour avoir été diffusés à la télé et ensuite avoir été distribués en DVD et à la télévision, des réalités vraiment méconnues finalement des sociétés britanniques des années 70-80. Vous avez Scum sur les maisons de détention, vous avez notamment Made in Britain sur le hooliganisme, et vous avez des acteurs comme Tim Roth, notamment, qui sont lancés dans le cinéma d'Alan Clark. Et c'est cette richesse-là, finalement, de ce cinéma-là, et ces dispositifs-là qui sont très ancrés, et je dirais finalement plus proche finalement de l'école punk dans la musique britannique, que je voulais évoquer ici, parce que je me dis, on s'était pas coordonné pour choisir nos films. Bah, je me dis que finalement ça complète bien ce qu'on a.
On a l'impression qu'il y a un éventail assez large de ce qu'on peut trouver en Grande-Bretagne, et ce qui fait le sel d'un cinéma qui est moins mis en avant.
Oui.
Que même le cinéma français ou le cinéma américain, évidemment, on a l'impression que tous les acteurs anglais, ils s'exportent aux États-Unis parce que on se dit que le travail est là. Quand on regarde bien tous les acteurs là des 20 dernières années, la moitié des acteurs de films hollywoodiens sont des acteurs britanniques,
oui.
finalement.
Oui, oui, hein, exactement.
Liam Neeson, on peut en citer des
Morgan Freeman.
Morgan Freeman, mais non, pas Morgan Freeman.
Je fais du temps à pied exprès et puis il plonge, voilà.
Non, mais.
Tim Roth, notamment.
Voilà, Tim Roth, voilà, il y en a, à chaque fois qu'on.
On n'a même pas besoin d'en parler, on a fait deux émissions sur lui, mais c'est vrai qu'il y a cette patte britannique qui a infusé dans le cinéma hollywoodien.
Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça ne. Il décide de s'exporter beaucoup oui. plus et de moins faire confiance à leur réalisateur à eux en Angleterre. C'est un peu un petit constat de peut-être que c'est un creux de vague, mm-hmm. je sais pas, mais comparé au cinéma français qui est perfusé d'argent public et qui est très utile oui. pour le coup, puisqu'on ressent bien que c'est ça qui peut permettre une sorte de diversité.
Moi, je rajouterais un argument pour ce film-là par rapport à ce que tu dis, c'est qu'Alan Clarke est avec Elephant et d'autres films, hein, il est considéré au départ comme un réalisateur de télé, donc on connaît le côté très péjoratif ouais. là-dedans, mais par ses pairs, il a toujours été reconnu comme un très grand cinéaste.
Ça va sans dire. C'est un manque d'exposition voilà. pour le coup, ça.
Et même si vous faites un film pour la télé, vous pouvez être un grand cinéaste. Pour nous, évidemment, c'est pas parce qu'on est en France et qu'on casse tout qu'on va. Il faut absolument casser ce cliché-là. Il y a des très grands films télévisuels et ces films sont sortis en coffret. D'ailleurs, il y a un magnifique coffret Alan Clarke qui n'est pas du tout élevé. Vous retrouvez Scum, les films que je vous ai cités. Et évidemment, Elephant qui a fait la réputation d'Alan Clarke et qui a repris une vie quand Gus Van Sant l'avait directement cité. Alors, je rajouterai un argument pour obtenir les suffrages de Nicolas, puisque en production, il y a un mec relativement peu connu. Qu'a produit Elephant dont je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Danny Boyle. Bon, voilà, c'est un petit détail.
Voilà.
Qui peut éventuellement jouer
en majeur
au niveau de cette fibre de manière totalement cynique. Alors, maintenant, il va falloir délibérer. Ouais. Marianne, est-ce que je t'ai éventuellement convaincu de revoir Elephant, justement, ce film d'Alan Clarke, et de découvrir cet univers, je dirais, très ciselé dans la filmographie britannique des années 70-80?
Moi, je ne connais pas le film. Honte sur moi.
Non, mais c'est. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune honte hein, également pour les personnes
d'écouter. Oui, ça m'a donné envie de le voir parce que c'est quand même, d'après ce que tu me dis, quand même des films qui sont ancrés sur la société anglaise, quand même.
Oui.
Et sur les différents. C'est quand même un trait, je trouve, du cinéma anglais, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est ça. On peut commencer à être dans la synthèse. C'est vrai que ce côté, finalement, d'une réalité très crue qui vous est présentée, avec des confrontations très marquées et des mises en scène vraiment innovantes. Hein, parce que là, les plans séquences, on n'est pas dans les films du cinéma de 2015-2020. On s'aperçoit qu'avec le numérique,
plans séquences,
on peut
ça
en
te
faire
plaît pas, ça, hein.
Non, c'est pas que. Enfin, moi, personnellement, ça me plaît pas. Oui.
Non, mais c'est pour ça que
je veux qu'on éradique tout ça.
Voilà, c'est pour ça que j'en remets une couche dessus.
Mais c'est également parce qu'il y a évidemment des effets de mode de cinéma très coulé, très fluide à notre époque, sans coupure. Elephant va prendre le dispositif du plan séquence à une époque où c'est vu comme quelque chose d'anti-cinématographique. C'est-à-dire, les gens qui faisaient des plans séquences à l'époque, on disait, mais tu veux pas faire de montage, en fait. Donc, tu veux pas faire de cinéma. Et je vais également lancer
Par contre, je connais le film de Gus Van Sant, Elephant. Je trouve que c'est un très beau film. Et je trouve que d'ailleurs, l'utilisation du plan séquence dans le film sert complètement le propos.
Et c'est exactement le meilleur hommage qu'on puisse faire à Elephant, finalement, parce que c'est le meilleur emploi d'un plan iconique qui sert le propos du film et qui n'est pas seulement un parti pris esthétique. Et ça, c'est essentiel. Je vais lancer Nicolas, qui va évidemment m'accorder sa voix, pour placer ce film en tête, évidemment, de notre classement totalement empirique.
Ouais, pourtant, j'aimerais bien voter pour Sunshine, mais je le mettrai en tête, vrai que c'est quand même un coup de poing. Moi, quand je l'avais vu, j'avais vraiment pensé au dogme de Lars von Trier, le côté vraiment aucun artifice et l'image brute. J'avais même l'impression de regarder, une vidéo de performeur, d'artiste qu'on peut voir dans des expos ce genre de choses, puisque c'est quand même un objet assez hybride, aussi bien sur la forme, mais aussi la durée, la musique, c'est très très étrange comme produit quand même. Là, j'ai les images qui tournent en même temps, je me le suis remis en fond.
C'est pour ça également qu'en illustration, je le précise pour nos auditeurs, j'ai pas mis de son d'Elephant parce que c'est relativement éprouvant, même au niveau sonore, si vous entendez des gens qui marchent, qui tirent et d'autres qui crient, je voulais pas le mettre en bande son parce que c'est vrai que c'est éprouvant, faut quand même appeler un chat un chat, on voit des gens se faire exécuter. De manière très réaliste, c'est également ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de stylisation, comme disait Nicolas, on a vraiment l'impression de voir des caméras de surveillance parfois, et ça peut être très déstabilisant, y compris à notre époque. Le film est de 89, on rappelle.
Ouais, mais puis ce qui est intéressant, c'est que justement, ce côté vrai, ça n'en est pas un argument pour l'histoire. Mmh. Aujourd'hui, on revient un peu vers ça. Il y a des cinéastes qui s'amusent de ça aujourd'hui, de dire, bah voilà, on revient vers une image brute, bah, comme Lars von Trier, hein, on l'a dit, hein, avec le Dôme. Et je trouve que là, justement, ça n'en est pas artificiel. Ça en est d'autant plus coup de poing. Moi, le Dogue, j'ai un petit peu du mal, et je trouvais que c'était un peu des fois superflu.
On rappelle pour nos auditeurs, le Dogue, donc Lars von Trier, notamment Thomas Vinterberg, donc qui avait décidé en fait de se mettre d'accord pour réaliser des films. On l'avait déjà évoqué dans le Ciné Netflix avec Julie Dekens quand il était venu. Il s'était mis d'accord pour tourner des films avec un contrat en fait, hein, pas de lumière naturelle, pas du tout d'artifice, pas de bande son,
pas de maquillage.
C'était hyper restrictif. Au final, il y a eu vraiment, on peut dire de manière très pure, un film seulement qui a adapté le Dogue, ça va être Festen de Thomas Vinterberg. Pour d'autres, c'est un peu en débat sur les films de Lars von Trier. Festen, qui est d'ailleurs un film extraordinaire. Et c'est vrai que voilà, on a l'impression de voir un film du Dogue. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun artifice cinématographique. Et finalement, il rentrerait, je pense, si on reprend ces théories donc de Lars von Trier et Thomas Vinterberg.
Il rentre complètement.
Il rentre complètement.
Mais il est d'autant plus coup de poing qu'à l'époque, justement, il n'y a pas encore eu tout ce battage entre guillemets médiatique, parce que le Dogue s'est beaucoup noyé dans ce truc-là. Ils l'ont beaucoup mis en avant et sur le fond, au final, des fois, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose. Là, je trouve que voilà, le propos n'est pas là et il est d'autant plus fort.
Alors Elephant, merci donc du coup Nicolas de ton illustration et de ta voix hein, pour que Elephant prenne la tête de notre classement totalement singulier avant que Thomas conclue cette sélection qu'on vous propose cette semaine en Graffiti Cinéma de films britanniques qu'on voulait mettre en avant pour vous parce que à nos yeux et dans notre petit cœur finalement pour citer notre ami Julia Sabozel qui nous a fait vivre des très bons moments en parlant d'Elephant, on a très très hâte de refaire des émissions en public pour revivre ces saisons de positives là. Eh bien finalement ces films là pour nous on voulait les mettre en avant parce qu'on voulait vous les présenter. On pense voilà qu'ils méritent une seconde vie et de nouveaux regards directement. Tout de suite Thomas nous parle du dernier film de notre sélection. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas, c'est la sélection de Thomas. Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous classons des films britanniques que nous voulons mettre en avant cette semaine et Thomas défend le dernier film de votre sélection.
Alors, ne vous retournez pas, c'est un film de 1973, un film de Nicholas Roeg. Okay. Alors, j'ai appris qu'on prononçait comme ça, alors c'est R-O-E-G.
C'est hyper stylé.
Voilà, c'est hyper stylé. Nicholas Roeg avec un casting incroyable, c'est l'histoire d'un couple, Laura et John Baxter. Alors, Julie Christie, c'est Laura.
Oui, elle fait tous les films.
Voilà. Julie Christie.
Un film ne se montait pas sans Julie Christie.
Voilà. Non, mais c'est vrai que Julie Christie, c'est l'icône des années, fin 60, 70, quoi.
Ah oui, c'est une actrice. Si pour les plus jeunes, si vous ne voyez pas qui est Julie Christie, courez voir des films de sa filmographie, c'est une actrice extraordinaire.
Et Donald Sutherland. Incroyable aussi qui est dans cette période là de, après L'or pour les braves, après MASH, après Clute.
Avec Jane Fonda. Un très beau film. Ouais.
Donc, il est dans une ascension incroyable. Ouais. C'est une histoire plutôt dure dès le départ. Le couple perd leur fille qui est dans un accident de noyade dans un étang qu'ils possèdent sur leur propriété. C'est le tout début du film. C'est une scène terrible. Dramatique, filmé avec un ralenti, des souvenirs, tout est entrecoupé.
Qui fait d'ailleurs la couverture du DVD et du film. Hein,
incroyable.
Il y a une ressortie, tu vas nous en parler, mais c'est cette image-là qu'évoque Thomas, vous l'avez sur la couverture du DVD.
Ouais, elle est terrible. Cette image-là, ce saisissement de la mort de l'enfant, c'est incroyable. Alors, il décide plus tard, on comprend que parce que le film est joue aussi avec le temps. Sur les façons de revenir, de faire du flashback et un peu entrecoupé, on sait pas trop au départ dans quel temps on se situe. On retrouve le couple à Venise, ils sont que tous les deux, on sent que voilà, ça se passe après, ils ont décidé d'essayer de repartir, de retrouver une nouvelle vie qui est un peu difficile, terrible après cet événement-là. Il rencontre une deux sœurs dans un restaurant et des voyantes.
D'accord.
Qui leur disent mais moi je vois votre fille, je vois votre fille décédée. Alors, comment on prend ça en tant que parent, évidemment Laura est ben voilà, on perd pied, elle syncope, elle se retrouve à l'hôpital et il vient la voir et lui il est très sceptique. Elle veut prendre le parti de se dire que oui, c'est possible, peut-être que ça peut arriver. Alors, elle retrouve le moral.
Est-ce que c'est une manière de ne pas perdre son enfant?
Et voilà, en fait. C'est une manière de ne pas perdre son enfant. Ouais. Elle retrouve le moral et elle se dit bon, ben, je peux essayer de repartir comme ça. Mmh. Et c'est à ce moment-là, là, on voit une scène du film incroyable, une scène d'amour qui est filmée de façon. Pour le coup, ça donne. Moi, ça me donne rarement les poils, mais je vous dis, ça, c'est superbe. On a vraiment l'impression que Julie Christie et Donald Sutherland étaient vraiment en couple pendant ce film, pendant ce moment-là. Je ne sais pas comment il a pu capter ça, comment il a pu amener ça. C'est superbe. Et tout ça, évidemment, la partie fantastique, ça instille un petit côté de malaise. On se dit, mais vraiment, qui sont ces femmes? Est-ce qu'il y a un plan derrière? Est-ce que finalement, il n'y en a peut-être pas? Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, le personnage d'Alan Sutherland voit il voit directement une silhouette qui marche dans les rues de Venise, qui ressemble à son enfant avec son imper rouge, qui est très important dans le film, la couleur rouge dans le film, bon évidemment à couleur du sang, et du coup il se met à poursuivre à traquer ça, il doit toujours renouer avec sa femme.
C'est les incroyable deux, parce que d'un point de vue iconographique et graphique, c'est le parti pris de la liste de Schindler d'avoir un enfant rouge comme un chaperon rouge dans un univers très terne.
C'est exactement ça. Et c'est exactement ça, surtout que les Venise est filmée de façon c'est assez gris hein, le film c'est comme tu dis, c'est terne quoi. Et la seule vraie couleur qui ressort c'est le rouge hein. C'est une excellente idée. Donc évidemment on s'en suit on s'aperçoit aussi qu'il y a une enquête qui est greffée là-dessus, donc par un moment on se dirige vers le polar, du coup on oublie un petit peu le fantastique et quand il revient ça nous saisit encore plus. Il y a des meurtres qui sont commis et on sait pas trop ce qui se passe quoi.
D'accord.
Et évidemment je peux pas vous déflorer ce final parce qu'il est juste incroyable. Non mais je sais, mais ce final est juste incroyable de tension, de là vraiment c'est un des rares films où j'ai vraiment eu peur.
D'accord.
Réellement d'effroi. C'est vraiment le terme, moi, c'est effroi. Le final, c'est d'effroi.
Ouais, parce que moi, je me rappelle avoir ressenti ça devant Twin Peaks, la série. Mm. Alors, vous pourriez dire, attends, vous voyez beaucoup de films d'horreur, mais là, il y a beaucoup de cinéastes qui ont ce talent incroyable de mettre en place une atmosphère qui va vraiment vous prendre d'effroi, et je partage tout à fait ce sentiment-là. Moi, c'est l'occasion, je vais voter pour toi, parce que, déjà, parce que je suis quelqu'un de long, j'aime bien mettre en avant les autres, et donc je vais mettre la main en premier.
C'est formidable.
Et puis s'il gagne pas, il va être insupportable.
Ouais, c'est vrai. c'est surtout ça, en fait.
Il gagne tous nos classements, il veut continuer à gagner. Non, et puis alors, blague à part, je découvre en même temps la filmographie de Nicolas Straub.
Il a pas fait un film avec Bowie.
Et oui, voilà, justement, l'homme qui menait d'ailleurs, vous aviez une signifiante, Strike 29. Ouais. Donc dans les années 70-80, il y a une filmographie très conséquente de six cinéastes qui est Nicolas Straub et qui donne également l'occasion de mettre en avant cette filmographie en plus de Vous retournez pas. Donc il y a un film de 73, hein, on n'a peut-être pas cité l'année tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on voit 71, 73, j'ai eu 89, Thomas, Nicolas
de
2007.
Alors je reviens, mais il y a des aspects de Giallo dedans aussi, hein, très très fort, hein, ça se passe.
Alors Giallo, c'est le slasher, c'est-à-dire le film de tueur sanguinaire, mais à l'italienne, notamment incarné par Dario Argento, dont on vous parlait la semaine dernière dans une petite émission qui s'appelle Graffiti Cinéma, le cinéma de la Hammer. Marianne, justement, sur Nicolas Straub et
je crois que j'ai vu ce film. C'est pas que je crois, c'est que je l'ai vu.
Mais tu as vu tout Julie Christie?
Non. Alors effectivement, je suis d'accord avec Thomas, je me rappelle plus de la fin, mais le film distille une certaine angoisse, un certain malaise. Et je me rappelle que Venise est un peu filmée comme dans un brouillard, parce que je pense aussi que ça reflète aussi le chagrin des...
Bah il y a Visconti aussi à l'époque hein, qui est...
Oui, mais je crois que ça reflète aussi l'état d'esprit des parents, qui sont complètement... Effectivement, on comprend pas bien ce qui se passe, et surtout c'est ça qui est intéressant en fait.
Oui, c'est le fait qu'on comprenne pas et que le film soit découpé en plein de séquences différentes avec des retours et que le retour soit pas explicité comme par exemple un rêve où le personnage parle et hop on fait un retour. Non, on a pas ce soit coupé et que on soit déstabilisé nous-mêmes.
Parce qu'en fait
Le final est
terrible.
Oui. Alors Nicolas, est-ce que tu as envie de découvrir cet univers-là si jamais tu n'as pas croisé ce film-là d'ailleurs?
Si, moi je l'avais vu à l'époque, enfin je l'ai vu il y a très longtemps, enfin pas en 74, j'étais pas né, ouais. Mais je l'ai vu il y a très longtemps, et c'est vrai que Thomas, quand tu disais tout à l'heure, il y a un peu d'effroi, enfin moi j'ai beaucoup d'effroi, oui. La sorcière, enfin j'ai un souvenir de cette voyante, pardon, sorcière, de cette voyante qui est assez effroyable, j'étais terrifié, et je trouve que le film de mémoire était assez clinique hein, dans sa façon d'être filmé, on disait tout à l'heure peu d'artifice, mais... effectivement, c'est, enfin moi j'en appelle à Suspiria, à tout, Argento, effectivement tout ce que tu disais tout à l'heure. Capillairement parlant, de mémoire, c'était une catastrophe aussi. Je voulais en parler. Donald Sutherland a une coupe de cheveux, c'est pour ça que je lui
avait une grosse touffe de cheveux.
Oui, on dirait plutôt le bassiste de Queen.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça.
Ceci dit, oui. Brian May, c'est le même. C'était le même coiffeur de l'époque. D'ailleurs, Queen qu'on va mettre en fond sonore avec Somebody to Love pour se quitter. Et c'est vrai que c'est très très important de le rappeler.
Alors, je rappelle vite, il y a une édition DVD une édition Blu-ray qui ressort. Alors, pour l'instant, pour l'avoir, il faut trouver l'import anglais. Mmh. Bon, il y a que des sous-titres anglais. Alors, mettez-vous sous-titres anglais. mais je sais que ça va ressortir dans pas longtemps, mois de juin il me semble.
D'accord, très bien. Eh bien, il nous reste à finaliser notre classement. On a précisé, ne vous retournez pas en premier. Évidemment, en deuxième, ça va être moi avec Elephant en 89. Blague à part, le classement est totalement indicatif. On a également parlé du Messager, The Go-Between de Joseph Losey avec Marianne. Et Nicolas nous a parlé de Sunshine en 2007, film de Danny Boyle. Voilà notre sélection relativement complète. Donc, je suis très content parce que je vous dis, chers auditeurs, on s'est pas du tout coordonné.
Non.
Et on a un film très punk, un film très historique.
Des films très différents.
Voilà, un film de genre et un film d'ambiance. Et c'est très important pour nous. Un grand merci, les amis, pour cette émission-là. Qui a été enregistrée dans les locaux d'RCF Loiret le 13 mars, samedi 13 mars. Et vous l'entendez, vous, 10 jours plus tard, sur les ondes de notre radio. C'était Graffiti Cinéma. Merci beaucoup, Marianne.
Merci. Bon.
Merci beaucoup, Thomas.
Bisous.
Un grand merci à Nicolas, qui était à distance, qui on salue très chaudement. Et puis,
gestes barrières.
Les gestes barrières sont importants. C'est pour ça qu'on met tout le monde au téléphone.
Oui.
Je crois. Nous, on vous quitte avec Queen et on se retrouve mardi prochain pour une émission surprise. Et bisous à tous et à bientôt, à la semaine prochaine.
C'est Graffiti.
Non, pourquoi vous faites ça? Hein?
Pas de ronge, pas de songe, désir allonge et plonge. Toi, toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous à nous et ce, je te le dois. Je te le dois. Je te le dois. Pas de vrai, pas de créer. Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Vie accomplie, journée sans bruit. Toi. De moi, oui, moi, pour faire de nous un nous et ce, je te le dois. Je te le dois. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous un
je te le dois. Je te le dois.
Alors, cette semaine, nous avons fait une émission de classement à la recherche du meilleur film britannique méconnu. Voilà, il y a des thèmes plus ou moins ouverts, mais c'est vrai que l'idée, c'était de mettre en avant chez les chroniqueurs des films britanniques qui, à nos yeux, manquaient d'exposition ou des cinéastes qui manquaient d'exposition. Et donc, dans cette logique de débat et de mettre en avant le meilleur film britannique, Mathieu, pour la chronique pas tout à fait dans le thème, cette semaine, a décidé d'être... d'être proche, d'être à la frontière encore du thème, mais de prolonger nos discussions. Salut.
En vous parlant de séries télé, yes. Et de séries télé qui ont peut-être été pas mis en avant, ou en tout cas un peu oubliées, ou alors un peu ringardisées, et c'est un tort parce que ce sont de bonnes séries télé dont je voulais parler. Genre, j'en ai pris trois, c'est pas vraiment un... enfin, c'est des séries que j'aime bien, quoi. Et puis,
ah bah bravo.
mais je veux dire, il n'y a pas premier, deuxième, je vais les mettre par ordre chronologique.
Oui, oui, c'est pareil, on rappelle, hein, pour nos auditeurs, quand on fait des classements, c'est juste pour déconner entre nous, et c'est surtout l'idée de mettre en avant des œuvres, effectivement.
Et je vous emmène pour partir en 1962 avec un héros qui a marqué mon enfance, Simon Templar, dit le Saint. Et notamment celui qui est interprété par Roger Moore, parce que autant Roger Moore fait un James Bond qui a des qualités, qui n'a pas que des qualités, ça dépend des générations. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait le James Bond auquel on pense immédiatement. Et il est Roger Moore. Roger Moore est le Simon Templar, est le Saint. Alors le Saint, c'est quelque chose qui est important aux États-Unis. Chez nous, c'est peut-être pas connu de tout le monde, ou en tout cas pas des plus jeunes.
Plus un truc de plus.
Mais c'est donc tiré de romans, hein, enfin de nouvelles pour être plus précis, de Leslie Chatterlis. Et il y a eu des films à partir de 1938. Le Saint à New York, c'est en 1938. Et puis ensuite dans les années 40, dans les années 50. Donc là, je vous parle de cette série qui est la plus connue du Saint. Il y en a d'autres. Il y a Le Retour du Saint qui est en 79. Il y en a une qui est dans les années 80, qui n'a que 6 épisodes et qui sont pas forcément... enfin, disons que l'acteur n'est pas aussi charismatique que Roger Moore.
C'est pas Daniel Craig.
Non.
C'est Daniel Craig.
ce n'est pas Daniel Craig. Parce qu'on est en 82, 83, quelque chose comme ça. Et même en 2017, voire 30 téléfilms qui fait le dimanche après-midi sur Netflix. Et alors pourquoi voir Le Saint avec Roger Moore? D'abord parce qu'il y a Roger Moore et que
voilà, fin des arguments.
Il interprète vraiment Le Saint tel qu'il est. Et de 62 à 69, puisqu'il y a 6 saisons sur des épisodes de 50 minutes, on a un résumé de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire que dans la première série, donc la première saison de 1962, on est sur une série télé qui est construite comme une pièce de théâtre. Déjà, il y a des actes, il y a trois actes, et on met acte 1, acte 2, acte 3. Ça commence, et parfois il y en a quelques-unes dans les épisodes, mais ça commence par une didascalie. J'explique ce que c'est une didascalie, c'est quand le personnage s'adresse directement au spectateur, et les intros du sang, eh bien, il est placé dans une petite situation. Et puis, il explique, oui, mais moi, en tant que gentleman, je suis obligé de... Il lève légèrement le regard et on a une auréole qui apparaît autour de lui. Donc, on a cette intro où on s'adresse au spectateur comme on le fait au théâtre et comme on ne le fait plus à la télévision, avec un personnage
c'est,
qui...
C'est très moderne, hein, ça, du coup. Parce que c'est vrai que le fait de casser le quatrième mur, de s'adresser au spectateur...
Oui, mais parce que ça vient du théâtre.
Voilà.
Ça vient du théâtre. Au théâtre, on le fait assez souvent... à l'époque de Molière ou autre, hein, on a des oh mon Dieu, j'espère qu'elle ne verra pas l'amant qui est caché dans le placard. Évidemment qu'il ne le dit pas, le mari est à côté, c'est vraiment un code du théâtre. Et là, la manière d'introduire cette chose, et même au niveau des décors, on a des décors alors qui sont pas fixes, n'exagérons pas, mais qui sont dans l'esprit un peu de l'unité de lieu qui vient du théâtre. Donc ça, c'est en 62, donc série noir et blanc au départ. Et à la fin, eh bien, on a une série des années 60, 70, que ça, ça finit en 69, tout à fait comme on a pu en voir, notamment Chapeau Melon Botte de Cuir ou ce, ce genre de choses, qui à peu près sur la même période, j'hésitais entre les deux séries, mais je me suis dit que le 5 était peut-être plus méconnu ou plus.
C'est vrai que pour les années 50, bon, on a parlé de la
Hammer,
on a parlé de la Hammer de Peter Cushing, les années 50-60, il y a vraiment la, la culture britannique va infuser comme elle a rarement infusé finalement dans la pop culture mondiale.
Et il y a un charme des années 60 britanniques. On a pu, lors de l'émission sur la battle des séries télé, parler du prisonnier qui l'a emporté. D'ailleurs, parce que c'est une très bonne série.
Il y a eu de la triche aussi. Hein.
On n'aurait pas la réflexion autour du prisonnier, parce que c'est quand même une série barrée, pas si on n'avait pas eu en décalque des épisodes comme... alors. Destination d'Angers, puisque en fait c'est de celle-là que vraiment s'inspire le prisonnier, mais Simon Templar est assez proche. Et Simon Templar est un personnage en plus qui est très bien mis. Alors, plus la série avance et plus ça se lisse, et là aussi on a quelque chose qui est proche de l'histoire de la télévision, c'est-à-dire qu'on en fait un détective amateur, un Robin des Bois moderne, alors que dans les romans, et c'est également dit dans la première saison, en tout cas dans plusieurs épisodes, c'est un voleur de voleurs, c'est quelqu'un qui vole des voleurs ou qui vole des malfrats, qui garde 10% pour lui et qui reverse le reste à des bonnes œuvres, d'où son surnom Le Saint, ça vient de là. Et ça, c'est expliqué, ou en tout cas c'est sous-entendu de manière forte au départ, et puis c'est lissé au fil des temps, parce que bah voilà, l'histoire de la télévision fait que voilà, si on veut avoir cette première à quoi ressemblait la télévision au tout début de son histoire, donc dans les années 60, le regard du saint, je vous le conseille. Et puis c'est vraiment le héros de l'adolescence, le héros qui a plein de charme et plein d'à propos. Donc c'est tout à fait sympathique à regarder. Je pense pas que ça soit sur des plateformes.
Non, pour l'instant non.
TF1 vidéo l'a édité. Alors ça c'est ça doit être un coffret qui ne doit plus être disponible parce que il a quelques années chez moi. Mais je crois que c'est édité fréquemment par TF1 vidéo.
Là je t'entendrais presque. Je te tendrais presque un piège en essayant de te ramener dans le thème, parce qu'il y a eu un film, Le Saint, avec Val Kilmer. Est-ce qu'on peut en avoir quelques mots sur ce chef-d'œuvre du cinéma?
Alors Roger Moore l'a détesté, mais on se moque un petit peu de ce que pense Roger Moore. C'est un film que j'ai aimé. Oui. Parce que justement on est sur une origin story, comment le saint devient le saint, puisqu'on est sur un film de braquage en fait. Enfin de braquage, de vol de haute volée, j'ai envie de dire. On est sur un film. Alors moi j'aime bien Val Kilmer, donc peut-être
moi aussi.
Peut-être que ça joue. Mais voilà, on est sur un film qui est tout à fait rythmé. Alors on est dans la Russie des années 90, donc ça fait un décor qui est assez
pittoresque.
Pittoresque, tout à fait. Non mais une scène, par exemple, à un moment donné, on le voit pendant quelques secondes préparer un pass en fait pour aller au-delà de la serrure, et puis il s'appuie sur la porte et la porte s'ouvre. Il fait j'adore ce pays.
Je pense que rien que pour cette réplique, ça mérite d'être vu.
une des blagues, voilà, avec une. Non, c'est un film qui fait tout à fait le taf et rend hommage en tout cas aux écrits de Leslie Chatterley. Ça reprend pas une histoire de Leslie Chatterley, contrairement à la série télé dont quasiment en tout cas 80-90% des écrits de Leslie Chatterley se retrouvent dans la série, alors avec des petites différences d'histoire, mais qui sont bien reprises. Donc et puis après ils ont imaginé, parce que Leslie Chatterley, ils avaient tout pris ce qu'il y avait à prendre. Mais non, c'est un film qui vaut le détour, et il y a également un téléfilm qu'on trouve sur Netflix qui occupe le dimanche après-midi, qui est beaucoup moins intéressant que le film de Val Kilmer.
Ouais, qui complète le Saint-Verse, finalement.
C'est ça. Je crois que c'est un téléfilm qu'ils avaient mis pour tester, savoir s'ils relançaient une série. Et vu qu'il n'y a pas eu de série, j'imagine que ça a pas, voilà, que les foules se sont pas déchaînées.
Merci pour cette première série, en tout cas très intéressante, parce qu'on voit que c'est, je dirais un élément pour des puristes, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une série vraiment rare dans le sens où elle était, on a essayé de la relancer plusieurs fois, on a essayé de l'adapter au cinéma, ça n'a pas forcément
pris. Parce que le sens est un personnage qui marque, je pense, la Grande-Bretagne et que sa plus belle incarnation. C'est Roger Moore, comme pour prendre un parallèle avant de passer sur un monument dans la deuxième, comme Zorro a marqué l'histoire des États-Unis, peut-être même du monde occidental, et que la version de Disney en est la quintessence. Et bien là, c'est un petit peu pareil.
Et en tout cas, très intéressant, en tout cas, de voir ces références-là, d'une sorte de James Bond, finalement, qui s'ignore. Qui s'ignore.
Oui, mais c'est un James Bond qui choisit ses missions.
Voilà, exactement.
Donc c'est assez chouette.
Mais c'est, voilà, bien, d'où l'intérêt
de cette série. J'ai une transition avec un homme qui choisit très souvent ses enquêtes, qui est Hercule Poirot. Plus précisément, c'est l'adaptation en série télé, donc qui démarre en 89, donc Agatha Christie's Poirot. Non, c'est pas juste pour vous endormir après avoir digéré de manière un peu forte en regardant TMC. C'est une super série. D'abord, c'est une série qui a une histoire extrêmement longue, extrêmement folle, hein, parce que ça démarre en 89, ça finit en 2013. Et ça commence aux États-Unis et ça finit par une production américaine. Les dernières saisons sont produites aux États-Unis. Alors, pourquoi le regarder? Déjà, regarde, si vous avez la possibilité, c'est-à-dire si vous avez les Blu-ray, si vous faites offrir les Blu-ray, ce que moi j'ai fait.
Ça va relancer l'économie.
voyez-le en VO.
Bien sûr.
Parce que en VO, on a donc l'acteur qui joue Hercule Poirot, qui est David Suchet, qui est très très bon.
C'est clairement une légende, hein, David Suchet. De toute façon, on va en parler parce que c'est incontournable. Mais c'est une légende. Finalement, à l'époque de la Hammer, il serait devenu une légende. Aujourd'hui, c'est un très bon acteur qui est connu, mais pas forcément du très grand public.
Alors, on est sur un acteur qui est purement britannique.
Voilà.
Et qui se paye le luxe dans cette série de faire exprès de mal parler anglais, parce que je rappelle que Hercule Poirot est belge et que donc c'est un réfugié en Grande-Bretagne. Donc il fait exprès de mal parler anglais et même il a des expressions françaises, il te dit des mademoiselles ou des mon ami, mais au milieu des tirades en anglais, ce qui rend excessivement bien. C'est un vrai plaisir à regarder en VO. Bon, après le...
Il y a des rumeurs comme quoi il aurait dit « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Mais ce sont juste des rumeurs.
Mais c'est intéressant. Donc, vraiment très très chouette. Donc, interprétation d'acteur qui est phénoménale. Oui. C'est-à-dire que quand on lui a proposé la série, David Suchet a lu tous les aventures d'Hercule Poirot. Donc, tous les Agatha Christie qui traitent du personnage. Et il a noté « Ah d'accord, il prendrait son thé comme ça. » Enfin, sa tisane, les puristes m'en voudraient, il va se comporter de telle et telle manière. Donc, il a pris des notes en lisant tout et il nous fait le Hercule Poirot le plus parfait. Il a pu revenir au cinéma incarné par Kenneth Branagh, qui est pas inintéressant en soi, mais c'est une interprétation d'Hercule Poirot. David Suchet, il interprète, il est Hercule Poirot. Et alors, le détail le plus fou, il faut savoir qu'Hercule Poirot est quelqu'un de très maniéré, et il a une manière de se déplacer tout à fait particulière, il fait des tout petits pas.
Je trouve qu'il y a un très joli parallèle à faire avec les Hobbits, finalement, qui sont des caricatures, on le savait dans l'esprit de Tolkien, du britannique, c'est-à-dire qui fait son petit jardin, qui bouge pas, qui est petit, qui fait des petits pas, qui veut pas partir à l'aventure, et c'est vrai que...
Alors lui, oui et non, parce que en même temps, il est souvent critique, il est gastronome par exemple, et donc vivant à Londres, pour lui, c'est souvent très très dur avec l'inspecteur principal Japp, qui lui...
Ce côté maniéré, vraiment, c'est la caricature du britannique qu'on adore, quoi.
Donc, afin d'acquérir cette démarche très particulière, parce que Hercule Poirot ne fait que des tout petits pas, il met la plus petite pièce qui existe aux États-Unis, on appelle ça un penny, il essaie de la tenir dans ses fesses sans qu'elle tombe, et quand il arrivait à marcher sans que la pièce tombe, et ben il a dit c'est bon, j'ai ma démarche. Et donc vous le verrez dans la série, il a une démarche qui est bon, évidemment ridicule, mais qui est tout à fait typique.
Ça évoque le pingouin finalement dans l'univers de Batman, qui est cette démarche très cintrée, très droite, très rectiligne.
C'est ça. Mais alors chez Hercule Poirot, en fait, c'est quelqu'un qui est excessivement rigoureux, qui est même complètement maniaque. Sa moustache est toujours de parfait équilibre dedans. Quand il se fait des œufs à la mimolette, il mesure que les œufs soient à la même, enfin cassés à la même hauteur. Et tout ça, la série le montre. Et donc on a quelqu'un, voilà, qui au petit déjeuner se fait 6 carrés de pain avec une petite touche de confiture dessus, mais qui sont au cordeau. Hein, donc voilà, on a quelqu'un, et ça fait partie du charme de personnage.
Et puis ça permet également là de comprendre, avec tout ce que tu nous dis, à quel point cette série est devenue matricielle pour énormément, enfin des tonnes de séries des années 90-2000. Là, je pense à Monk, à Columbo, évidemment, toutes ces séries-là qui ne font que rendre hommage. En
je pense que Columbo est plus ancien que Agatha Christie, mais oui. Évidemment, Monk découle complètement de ça. Mais ici, en plus, on a l'écriture d'Agatha Christie. Puisque je crois, je n'ai pas vérifié, j'avoue, mais je crois que l'intégralité des romans d'Agatha Christie ont été adaptés en série télé jusqu'au dernier, puisque le dernier c'est Hercule Poirot qui décède, et donc on va savoir pourquoi
spoiler
pourquoi qui a tué Hercule Poirot. Mais donc l'intégralité je pense des écrits d'Agatha Christie, à une exception près, c'est l'adaptation qu'elle avait fait au théâtre qui s'appelle Café Noir. Ça j'ai vérifié, parce que j'ai vérifié, et ça n'a pas été adapté en série, mais l'ensemble des nouvelles et des romans ont été dedans. Et donc on a tout le mystère d'essayer de comprendre qui a tué, voilà. Donc ça demande une certaine concentration si on veut deviner, si on se laisse porter par l'histoire. Et même avec une concentration, moi à titre personnel, je devine à peu près une fois sur deux, pas mieux, vraiment pas mieux.
On peut rappeler rapidement le nombre de romans de Sherlock Holmes, d'Agatha Christie, si tu les as, parce qu'on disait tout à l'heure que David Suchet avait tout lu quand il avait préparé le rôle. C'est dire à quel point il a été évidemment...
Alors c'est une excellente question, il y a 70 épisodes, donc on va voir si effectivement tout a été adapté.
Alors je voulais pas forcément te poser une colle, mais ça me fait... parce qu'on sait que David Suchet, en fait, c'est un acteur évidemment, alors plus connu des puristes que du très grand public, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il est capable d'être acteur caméléon comme énormément de très très grands acteurs. On l'a même vu jouer un terroriste libanais dans un film improbable avec Steven Seagal dans Ultime Décision. Et là, savoir qu'il a joué Sherlock Holmes, qui est évidemment l'antithèse totale de ce type de personnage, en dit long sur évidemment le niveau de cet acteur.
Alors c'est un petit peu compliqué de te dire, parce qu'en fait les nouvelles ont été mises en recueil.
D'accord.
Mais il y aurait 41 livres, dont des recueils de nouvelles.
Non mais ça suffit pour en dire long sur le niveau d'implication de l'acteur dans cette série.
Complètement, complètement. Donc vraiment une série à découvrir. Et puis on a cette ambiance années 30 avec l'art déco qui est mis en avant. Elle est extrêmement bien réalisée. Mm-hmm. Je veux dire, c'est très joli à l'image. Donc
D'un point de vue technique, j'aurais juste une question pour toi sur le passage. Donc, parce qu'on sait que c'est une série donc télé qui était diffusée notamment sur France 3 de mémoire. Le passage en Blu-ray, est-ce qu'il supporte finalement la haute définition pour cette série-là ?
Oui, parce que l'image est très très belle. Voilà. Vraiment, on a ils ont été chercher les coins de Londres qui sont tout à fait années 30 art déco, mais également on a des épisodes en Égypte. Mort sur le Nil par exemple, on a des épisodes qui sont dans la campagne britannique, notamment le dernier épisode de la série dont je ne dirai rien, sur la mort d'Hercule Poirot. Hercule Poirot va à travers le monde, et souvent par exemple, parce que ce n'est qu'une série télé donc on n'a pas forcément les moyens, il mélange des actualités d'époque, actualités années 30 de cette manière là et puis ensuite on a un passage où on voit Hercule Poirot en noir et blanc comme l'actualité d'époque, puis ça redevient en couleur de manière à dire, eh bien oui, je vous mets l'actualité d'époque avec le prince prétendant britannique britannique qui vient en visite en Inde. Et puis, bah, on a un personnage, là, en l'occurrence, c'est Hercule Poirot, c'est un des suspects qu'on voit en Inde de cette manière en noir et blanc, puis ça redevient doucement en couleur. De manière à ce que la série reprenne son rythme de croisière. Voilà le type de d'effets
oui, voilà,
de
c'est aussi pour ça que
qui sont très très chouettes, ouais.
C'est aussi pour ça que je t'ai interpellé là-dessus
vraiment,
parce que
pourrait... et là alors le seul alors vous pouvez les découvrir sur TMC hein, parce qu'ils sont voilà, multidiffusés oui. sur TMC. Toutes les saisons ne le sont pas, c'est un peu tout le temps les mêmes qui tournent sur TMC.
D'accord.
Donc je ne veux pas absolument vendre des Blu-ray, je ne travaille pas à la Fnac ou à un autre
Tu n'es pas héritier de légamentaire d'Agatha Christie.
Tu parles de Narty comme ça j'en ai trois, mais la découverte des Blu-ray permet d'aller voir d'autres épisodes qui sont donnés et vraiment ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, 70 épisodes, Agatha Christie, Poirot, je vous le conseille.
Alors on te laisse préparer je te laisse préparer la dernière série dans ta sélection, parce que là c'est vrai que pour l'instant on trépigne, parce qu'en plus ces dernières semaines on a vu Penny Dreadful, donc plein de séries dans l'univers gothique et qui plaît énormément, et je dirais de l'univers anglo-saxon, puisqu'on sait qu'il y a une période très gothique chez Tim Burton, qu'on est pas totalement sorti d'ailleurs, mais c'est vraiment le côté, l'aspect du mettre en avant le raffinement de l'image et de l'écrit, et c'est pour ça que je t'ai interpellé avec le Blu-ray quand on évoquait Agatha Christie et Hercule Poirot. C'est que évidemment on pourrait tout de suite dire ah bah oui mais ça vient d'Agatha Christie donc c'est très écrit, très scénarisé, très plan-plan. Non, ce sont des vraies belles images, à l'image justement de la troisième série que tu vas nous présenter. C'est pas seulement de l'écrit comme on pourrait le dire parfois, je dirais en singeant un peu les vieux polars à la française comme les Maigret notamment, où effectivement on peut avoir la sensation que ça bouge pas trop. Il y a aussi une vraie photo et une vraie belle qualité.
Non, alors la troisième elle bouge énormément puisque dès le concours c'est Sherlock,
Benoît Concombre,
l'excellente ouais. série Sherlock, donc qui modernise Sherlock Holmes, c'est qui le met actuellement. Donc on a une diffusion à partir de 2010, hein, donc la série est assez récente. Il y a quatre saisons, dont trois qui sont passionnantes. La dernière est un petit peu en dessous. Il y a deux épisodes spéciaux, il y a un épisode de Noël et puis un épisode intersaison de mémoire qui sont à voir. Et donc on modernise. Alors là, pourquoi le voir? D'abord pour Benedict Cumberbatch. Qui interprète un Sherlock magnifique.
C'est vrai que l'envoi le casting, bon, c'est impressionnant.
Oui, oui, et l'ensemble du casting est impressionnant parce que on a même, je veux dire, des seconds rôles. Parce que Sherlock, par exemple, dans Sherlock Holmes, c'est un frère qui est au service secret.
Ian Holmes. c'était juste une blague débile. Mais par contre, on peut en montrer sur la couverture, évidemment, parce que le deuxième petit bonhomme qui est derrière Benoît Concombre, c'est un mec qui a fait quelques films hein, aussi ces derniers temps, donc Martin Freeman, hein, qu'on a vu traîner chez Marvel, et évidemment dans l'adaptation du Bilbo le Hobbit pour les très très gros films, mais sinon qu'on voit dans des tonnes de films indépendants et qui est toujours excellent. Voilà, allez.
Et qui est notre porte d'entrée, hein, ce docteur Watson, qui est notre porte d'entrée pour rentrer dans le cerveau de Sherlock ou de Sherlock Holmes. Et lui, c'est l'aspect normal qui nous permet de comprendre. Et la série, je vous parlais d'une BD qui s'appelait Dans la tête de Sherlock Holmes il y a la semaine dernière. Et bien là, la série réussit assez bien. Par exemple, le premier épisode de la première saison, on voit des chaussures impeccablement cirées d'une personne qui rentre, et projetées sur les chaussures, on voit travail en intérieur. C'est-à-dire que Sherlock Holmes se dit, les chaussures ne sont pas usées, donc c'est pas quelqu'un qui travaille dehors, c'est quelqu'un qui travaille. Et des effets de cette manière-là, notamment.
C'est écrit, c'est textuel.
C'est écrit sur les chaussures. Sur la chaussure, on voit écrit travail en intérieur.
Et donc ça correspond à la pensée
de Sherlock Holmes.
D'accord.
Ce qui va déduire de l'indice visuel qui est les chaussures sont propres. Eh ben pour nous c'est juste des chaussures propres. Là on a cette manière là. Donc c'est une autre manière d'entrer dedans. Alors après c'est très développé. On a le palais mental de Sherlock Holmes qui est développé dans la série, et qui est notamment développé dans la dernière saison. C'est pour ça que je trouve que ça se perd un peu. En plus
sur cet aspect-là, je vais me permettre de t'interpeller en faisant Robert De Niro. Je fais hyper mal. Du coup, moi, ça me fait penser.
Radiophonique, plus, c'est. Oui.
Alors, blague à part, moi, le côté de texte qui vient s'immiscer en représentant la pensée, c'est évidemment du jeu vidéo. Quasiment. Finalement, parce qu'on
voilà, c'est un des exemples. Il y a plein d'autres.
Tu nous as parlé d'Hélène Noir, par exemple, d'enquête dans le Los Angeles très dark des années 40. Là, on est dans la tête d'un personnage qui et sa pensée vient se greffer. C'est très jeu vidéo, je trouve.
Non, à mon avis, c'est plus une manière visuelle de faire comprendre comment pense Sherlock Holmes et du coup de nous le rendre moins incompréhensible, moins
d'accord.
À la fois tout aussi génial, mais moins, enfin, je veux dire moins cinglé, non, il est complètement cinglé. mais en tout cas, de permettre de comprendre comment il réagit.
D'accord.
Et puis on a des, c'est une série qui est pleine de secrets, c'est-à-dire de comprendre le twist, le truc qui fait que, eh bien oui, l'affaire n'était pas si insoluble que ça, le meurtre n'était pas aussi parfait que ça. Alors je pense notamment à l'épisode de la saison 3, je crois que c'est la saison 3, avec un soldat donc de la garde qui décède de manière complètement incompréhensible. Alors le twist, je veux dire, vient du roman, hein, mais le c'est peut-être la saison 2. Je suis en train de reprendre.
Envoyez-nous un message si vous voulez nous aider.
mais voilà, il y a c'est extrêmement extrêmement bien construit. Alors c'est une série qui est assez courte, hein, parce que chaque saison fait trois épisodes plus les deux épisodes spéciaux, mm-hmm. Qui est plein d'humour, qui est hyper dynamique. On parlait de choses qui étaient plus plan-plan en début. Là, c'est hyper dynamique, ça va à 200 à l'heure, et c'est un bijou d'écriture, c'est un bijou de réalisation, et puis c'est extrêmement bien joué parce qu'on a des acteurs qui sont tous formidables. Donc voilà, c'est un.
C'est même un petit. On peut dire
énormément de temps. C'est un vrai bonheur de chacun, même si la durée de chaque épisode est 90 minutes, donc une heure et demie par épisode. Donc c'est
des épisodes très longs. C'est même un vrai petit miracle de production d'avoir eu Benedict Cumberbatch et Martin Freeman à une période en plus où ils commençaient à être très 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 sollicités par Hollywood.
Je pense qu'ils commencent à être sollicités après le succès de cette série. Là, ils commencent à être connus, à mon sens, c'est un des talents de Steven Moffat, donc qui est le scénariste. Alors qu'il est principalement connu pour quelque chose que moi je ne connais pas du tout parce que je n'accroche pas, je n'arrive pas à rentrer dedans. Tout le monde me dit que c'est extraordinaire, mais moi je n'y arrive pas. C'était Doctor Who.
On va pas se faire des copains là.
non, mais plein de gens c'est oui. Extraordinaire et des gens que j'aime, donc et qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, mais j'y arrive pas du tout.
C'est vrai que c'est un vrai sujet, Doctor Who, et c'est là on le met pas en avant ici, mais on fera une émission au moins à part sur Doctor Who, parce que c'est vrai que c'est mythique chez les Britanniques.
C'est trop britannique pour moi, en fait.
Je dirais que Doctor Who est à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, ce qui est l'équivalent d'Interville pour la France, finalement. J'ai conscience que cette phrase est bizarre, mais
et je pense que oui, je l'entière responsabilité. Mais voilà, trois séries que je vous conseille. Ouais. Sherlock, Hercule Poirot
et Le Saint avec
Roger Moore. Normalement, vous avez de quoi.
Ah là, il y a que du cul.
Et les conditions futures en regardant tout ça.
Ah oui, et puis en mangeant évidemment des petits gâteaux à la menthe, que des trucs très britanniques avec du thé à côté, évidemment.
Toujours du thé.
Bah très très grand merci en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un panel très complet, très large de ce qui se fait mieux, je dirais, dans la culture britannique au sens le plus large du terme, puisque on voit bien à quel point ça a infusé dans la pop culture internationale. Et là, pour le coup, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Ça reprend des vieilles figures totémiques de la littérature britannique, comme le faisait la Hammer, mais de manière totalement réactualisée. Un grand merci pour pas avoir été tout à fait dans le thème encore cette semaine.
À la semaine prochaine.
Salut, merci beaucoup.